18h sonne et vous écoutez Curiosité, la quotidienne de Prune qui s'attarde sur la vie locale, culturelle, associative, sociale et politique. Comme chaque mardi, marquons l'arrêt sur l'univers étudiant, son activité, ses spécificités et centres d'intérêt. Une heure où les journalistes de la rédaction vous proposent de découvrir ce monde et d'explorer ses problématiques actuelles. Curiosité, c'est maintenant sur Prune 92 FM et prune.net.
Prune 92 FM, bonjour à tous, bienvenue dans Curiosité consacrée à la vie étudiante. Chaque semaine dans cette émission, nous aborderons les sujets qui concernent directement les étudiants nantais. Aujourd'hui, 30 avril 2019. Et vous n'avez pas pu le rater, il fait son grand retour dans notre ville. Je parle évidemment du soleil, et oui, qui dit soleil dit Brésil, qui dit Brésil dit...
Carnaval.
Presque. Et dit Maria Andrade à Feto. C'est ce qu'on écoute en ce moment. Soleil, Brésil avec cette superbe chanson, je rappelle, Afeto de Maria Andrade. J'ai découvert ça tout à l'heure, une petite pépite. Salut Robin.
Salut Mathéo.
Comment ça va?
Super et toi?
Ouais, pas grand monde aujourd'hui j'ai envie de dire. Hein.
On est littéralement trois dans le studio.
Ouais. Il y a Thierry aussi avec nous.
Tout à fait.
Bonsoir
à
Thierry. Ça va bien?
Ah bah très très bien.
Ça a l'air en tout cas. On reviendra vers vous tout à l'heure pour expliquer un petit peu plus. Dans l'émission d'aujourd'hui, on parlera pas de soleil, mais on parlera de marche au soleil, effectivement, puisque les jeunes de Saint-Nazaire marchent contre les réformes de l'enseignement. Vous vous souvenez peut-être, nous en avions fait plusieurs émissions sur les sujets. Depuis le début de la saison, que ce soit sur le sujet de la hausse des frais de scolarité pour les étudiants étrangers hors Union Européenne, que ce soit les réformes du bac, Parcoursup, ou même le projet de loi sur une école de la confiance. Nombreux sont les acteurs insatisfaits de l'orientation que prend notre cher enseignement vers une privatisation des établissements, vers une sélection de plus en plus tarde, plus tôt, vers un accroissement des inégalités, vers une dévalorisation du métier d'enseignant. Un lycée, le lycée expérimental de Saint-Nazaire, se pose en opposition à celle-ci. En effet, depuis lundi, le lycée s'arrête dans son fonctionnement habituel et organise une marche sur le rectorat de Saint-Nazaire et de Nantes pour protester contre la réforme Blanquer. En général et particulièrement contre les suppressions de postes qui touchent le lycée expérimental. Nous sommes avec Sarah qui marche depuis lundi. Sarah est sur place. Sarah, comment ça va?
Ça va bien.
On t'entend pas super bien, Sarah, mais j'ai entendu que ça allait.
Ouais.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette marche, Sarah, s'il te plaît?
On a préparé toute la semaine dernière, avant ça encore, avant les vacances, on a réfléchi aux meilleurs moyens de protester contre la suppression des postes qui touchait notre lycée et qui met en danger le projet de notre lycée, qui est un projet de co-gestion et d'autogestion. Et donc, on a réfléchi, on a trouvé cette idée de marche. Donc, toute la semaine dernière, c'était la logistique et on a organisé cette marche complètement comment on allait manger jusqu'à quel itinéraire on devait prendre. Et lundi, on s'est lancé dans cette marche.
Il y a combien de kilomètres qui séparent Saint-Nazaire du rectorat?
60 kilomètres à peu près.
D'accord. Ça fait... Vous avez prévu de le faire en combien de temps, du coup? D'arriver quand?
Là, on arrive jeudi. Et on fait à peu près... Là, on a fait 23 kilomètres hier et 25 aujourd'hui.
Ah oui, quand même. Ah oui, donc grosse marche, quoi. Vous êtes où, là, du coup?
On est sur une aire de loisirs de Couéron, à l'aire d'Urière. C'est la mairie qui nous héberge, enfin, qui a accepté de nous la prêter pour la soirée.
D'accord. Donc, oui, en fait, les réformes touchent tout le monde, mais touchent plus particulièrement le lycée de Saint-Nazaire, qui est un lycée alternatif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce lycée?
Comme je disais tout à l'heure, c'est un lycée autogéré et co-géré. Donc autogéré, ça veut dire que le lycée se gère tout seul. Le comité des membres de l'équipe éducative et le comité élève, ensemble, ça c'est la co-gestion, gère le lycée en faisant la cuisine, en gérant le secrétariat, les appels, l'administration, en gérant la documentation, en fait en gérant tout le fonctionnement qui d'habitude est géré par des employés dans un traditionnel. Et on a notre propre fonctionnement qui est complètement différent d'un cadre qu'on a l'habitude de voir normalement.
D'accord. Et pourquoi est-ce que ça touchera plus particulièrement alors ce lycée, cette réforme?
Du coup, actuellement, on a 19 MEU. MEU, c'est le petit nom pour les membres de l'équipe éducative. Et les 19 MEU, ils ont toute une charge sur leurs épaules parce qu'ils sont les seuls adultes, enfin les seuls postes du lycée. Et donc, il y a tout un pan de l'administratif déjà qui ne peut pas être géré par les élèves et qui donc est obligé d'être géré par les MEU, qui d'habitude est géré par les postes administratifs d'un lycée, que nous n'avons pas. Donc en gros, déjà il y a ça. Ensuite, on a un fonctionnement en groupe de base. Un groupe de base, c'est on en a 6, et c'est des groupes qui s'alternent au fur et à mesure de l'année et qui sur 2 semaines vont gérer le lycée sur tous les ponts. Et nous enlever 2 postes, en gros, l'équivalent de 2 postes, ça voudrait dire nous enlever un groupe de base, ce qui nous enlève des temps pédagogiques, et on est quand même un lycée, et on travaille, et nous enlever des temps pédagogiques, c'est faire des économies pour moins éduquer, ce serait un peu,
d'accord,
un peu bizarre.
Et comment se passe la marche, alors, a priori, jusqu'à maintenant?
Eh ben, ça se passe bien. On est fatigué parce que c'est beaucoup, mais on y arrive et on se débrouille.
Ok. Il fait beau aussi ici?
Ouais, il fait super beau. On a vraiment beaucoup de chance.
Ok.
Et juste ici, on croyait qu'il allait pleuvoir, donc.
Donc ça va. Vous avez échappé belle. Et oui. Une fois arrivé au rectorat, il se passera une action spéciale ou c'est symboliquement fort?
Du coup, on appelle au soutien et on espère qu'il y aura beaucoup de monde devant le rectorat pour qu'on puisse pique-niquer tous ensemble. Donc le but, c'est de pique-niquer. Et devant le rectorat, on a fait une demande de rendez-vous, mais il ne semble pas qu'on ait répondu. Du coup, on a préparé une délégation, mais on ne sait pas si on va vraiment pouvoir y aller. Jeudi, du coup, c'est okay. Jeudi. Et on arrive jeudi devant le rectorat. Et donc... on a grosso modo pris tous les papiers qu'ils reçoivent depuis 10 ans et s'ils disent ne pas avoir lu et ne pas avoir vu, alors qu'on leur envoie et qu'on est complètement transparent avec notre fonctionnement, et qu'ils disent ne pas nous connaître. Et sinon, l'idée, c'est de faire des slogans, de discuter avec des gens, de se donner de la visibilité et de montrer qu'on est là et qu'on n'est pas content.
Eh ben, l'idée du pique-nique me plaît pas mal, donc rendez-vous midi, jeudi, devant le rectorat alors ?
Ouais, le rectorat de Nantes, c'est ça.
Ok, bah super. Sarah, est-ce qu'on a oublié quelque chose durant cette interview que tu voudrais préciser ?
Tout le monde est convié à la marche, donc si les gens veulent nous soutenir, ils peuvent suivre notre compte Instagram qui est ça.va.marché et on dit où on est et ils peuvent nous rejoindre.
Ok, ça.va.marché, c'est ça ? Sur Instagram ?
C'est ça.
Ok. Eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis, jeudi, pique-nique devant le rectorat. Le rectorat qui se situe à côté des facultés, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà. Eh ben, super. Eh ben, merci, Sarah. On vous embrasse fort. On embrasse tous les marcheurs. On est, ces marcheurs-là, en tout cas. Et on est à fond derrière vous. Et puis, bon courage.
Trop cool, merci.
Merci, ciao. On est toujours sur Prune 92 FM. Le morceau s'appelle L'essor de Biche. On est tout de suite avec Thierry qui est maître de conférence à l'Université de Nantes. Robin, tu peux procéder à l'interview, je t'en prie.
Merci Mathéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler histoire. Donc, comme Mathéo nous l'a dit, nous sommes en compagnie de Thierry Piel. Rebonjour Thierry.
Rebonjour.
Donc, vous êtes donc maître de conférence à l'Université de Nantes, pardon, en histoire antique, c'est ça ?
Histoire ancienne, absolument.
Histoire ancienne.
Oui, c'est la même chose.
Et donc, depuis peu, vous avez créé une chaîne YouTube qui s'appelle Historytelling, dont on va passer un court extrait tout de suite.
Ah, salut ! Patrice Périclès, le boss de l'histoire, pour vous servir. Aujourd'hui, nous parlons de Cléopâtre et de César, leur première rencontre, coup de foudre à Alexandrie. Nous sommes donc en septembre 48 avant Jésus-Christ, à Alexandrie, la capitale du royaume d'Égypte. Et c'est donc là, en effet, que César et Cléopâtre se rencontrent pour la première fois. Il se trouve justement que j'ai sur moi un témoignage de Plutarque, un auteur qui a écrit un siècle après les événements dont il est question ici.
Alors Thierry, pourquoi avoir décidé de faire une chaîne YouTube à côté de votre métier de maître de conférence ?
Je dirais que c'est un certain nombre d'opportunités qui sont intervenues dans ce projet, ou en tout cas dans sa genèse. En fait, il y a à peu près un an, presque jour pour jour, j'avais été sollicité par un de mes anciens étudiants, alors non pas de l'université, mais de Sciences Com, école de communication qui est basée sur l'île de Nantes et pour laquelle je fais quelques vacations depuis déjà pas mal d'années. Et donc un de mes anciens étudiants, je l'avais eu en 2011, Maxime Chabroux, que peut-être vos éditeurs connaissent mieux sous son nom, bien sûr, de youtubeur Amixem, donc
sûrement,
un gros youtubeur, prend contact avec moi pour dire « Monsieur Piel, je me souviens de vos cours, c'était vivant tout ça, est-ce que vous accepteriez de venir faire une vidéo avec moi ?» Alors c'était autour en fait d'une enquête ADN qu'il avait fait faire le concernant, et pour laquelle il souhaitait un décryptage historique. Et voilà, sitôt dit, sitôt fait, je suis allé enregistrer dans la fameuse Red Box à Angers, donc cette émission, et il y a eu des retours étonnants, parce que ça a été vu évidemment par beaucoup de monde, puisque c'est un gros youtubeur, donc on est sur une jauge de plus de 3 millions de viewers, et parmi les remarques, pas toutes évidemment, mais certains disaient, mais quand est-ce que vous allez faire une chaîne YouTube, etc., etc. Alors ça, c'était bien gentil, mais le problème, c'est que moi, je suis nul en informatique. Et donc, par conséquent, on en était resté là, même si j'avais trouvé beaucoup de plaisir à cette petite expérience de vidéo. Et c'est donc la deuxième opportunité qui m'a amené à ce projet au mois de janvier, puisque un de mes anciens étudiants de la fac, cette fois-ci, qui est prof d'histoire-géographie maintenant, Pierre-Emmanuel Le Benoît, qui est cinéaste à 16 heures, qui m'avait fait tourner d'ailleurs dans quelques-uns de ses films il y a quelque temps de cela, eh bien, qui m'a dit « Mais moi, je serais très intéressé par un tel projet. » Et voilà comment nos compétences réunies, eh bien, nous nous sommes lancés dans cette petite aventure.
Très bien. Et donc, qu'est-ce que c'était l'objectif à la base de cette idée de faire des vidéos ?
En fait, figurez-vous, ce qui est étonnant, c'est que, comme on était en contact depuis pas mal de temps déjà, on ne s'était jamais perdu de vue, on avait déjà pensé à cela. L'idée nous était venue, mais on ne l'avait jamais vraiment concrétisée. Et on s'était dit que c'est vrai, dans les temps actuels, la vidéo et justement ces chaînes histoires, car il y en a beaucoup qui existent sur le net, sont un outil qui peut être tout à fait intéressant, tout à fait utile, et en tout cas qui peut capter une certaine attention de la part d'un public d'élèves, mais pourquoi pas aussi, bien sûr, d'étudiants. Alors, l'idée, c'était pourquoi pas rentrer dans ce contexte-là et jouer notre propre carte. Souvent, ce sont des youtubeurs plutôt jeunes qui font ce genre de choses, rarement des universitaires, donc je vais être un des premiers, à mon avis, à me lancer là-dedans. Et j'ai trouvé que, en plus, ça collait parfaitement avec ma propre philosophie de la pédagogie et des cours. C'est le côté un peu théâtral, un petit peu animé. Moi, je trouvais ça vraiment formidable. Et donc, on s'est dit, allons-y gaiement.
Donc, vous êtes deux sur le projet, c'est ça ?
Alors, on est deux, plus d'autres personnes qui nous aident, que j'avais déjà croisées d'ailleurs, qui sont un peu nos techniciens, mais qui sont aussi nos miroirs, parce qu'ils jugent un petit peu sur le fond, tant sur le fond que sur la forme, ce sont tous enseignants, donc Well et puis Sego, donc on est quatre toujours lorsque l'on tourne nos vidéos. Voilà.
Donc, la première vidéo s'appelle « Coup de foudre à Alexandrie » et ça parle de César et Cléopâtre. Est-ce que vous avez déjà décidé des sujets des prochaines vidéos ?
Alors oui, on a déjà programmé. D'abord parce qu'on en a déjà une autre qui est en boîte et qui va apparaître sur le net la semaine prochaine et qui s'appelle donc « Mais où est donc passée la quatrième croisade ?» Une croisade qui n'est jamais arrivée à Jérusalem, autant vous dire qu'il y a eu un problème. On expliquera pourquoi. La troisième qu'on va tourner à la fin du mois, ce sera sur Maristoire, Petit meurtre entre reines. Alors on surfe un petit peu sur l'actu cinématographique, puisqu'il y a eu un très beau film sur ce sujet il n'y a pas longtemps. Puis moi j'aime beaucoup l'Écosse, donc c'était l'occasion de rendre hommage à cette très belle région d'Europe. Et la quatrième, ce sera sur Rasputin, immortalisé par le groupe Bonnet, mais qui est un personnage historique, rappelons-le, ce sera le moine qui murmurait à l'oreille de la tsarine. Voilà, et donc là on aura fait en fait les quatre grandes périodes de l'histoire, Antiquité, Moyen-Âge, Époque moderne, Époque contemporaine, et après on se fera un petit jingle avant de revenir à l'Antiquité qui portera sur l'actualité, un sujet d'actualité, et ce sera certainement sur l'Algérie que nous interviendrons. Il se passe des choses importantes, on essaiera d'être toujours dans la très brûlante actualité. Voilà.
Et donc vous avez une façon de choisir vos sujets ou...
Alors pour commencer, il faut bien dire, on avait que l'embarras du choix. Là, César et Cléopâtre, bon, c'est l'Antiquité, c'est un sujet porteur. On cherchait quand même des choses qui sont en fait faciles à raconter, où il y a un peu de pittoresque. L'idée, c'est d'avoir quand même un fond qui soit sérieux, mais sur lequel on puisse facilement s'amuser, théâtraliser, faire un peu d'humour. Et donc, c'est vrai que l'histoire de la fiscalité française au XVIIe siècle, on peut certainement la rendre passionnante, mais moi, ça me parle moins personnellement. Donc, j'avoue que je préfère entrer dans la grande histoire par des faits qui apparaissent de petites histoires, mais pourtant qui nous entraînent bien dans la véritable grande histoire.
Et donc, est-ce que c'est compliqué de mettre en vidéo, en vidéo de 10 minutes à peu près, enfin, pour l'instant en tout cas, des sujets qui sont aussi vastes ?
C'est très compliqué, je ne m'en suis rendu compte qu'en le faisant. Surtout la deuxième, la première ça a été à peu près, mais la deuxième, il y a une vraie complexité, c'est-à-dire on se rend compte que si on rate un étage, on ne comprend plus rien, à moins d'être déjà, bien sûr, compétent sur le sujet. Or, on s'adresse évidemment à un public qui est censé ne pas connaître le sujet. Donc, en fait, on a été obligé de reprendre parce que, à chaque fois, je me dis, ah oui, s'il manque ça, ça ne va pas être compris. Et en même temps, il ne faut pas non plus qu'on surcharge trop la barre. Donc, il faut jouer entre le synthétique, tout en conservant effectivement un fil conducteur qui fasse que personne ne perde le fil de l'histoire. Il faut rester dans la narration, en fait.
D'accord. Et est-ce que vous pensez du coup faire des formats un peu différents, plus longs ou plus courts, pour pouvoir parler plus en détail de choses ou pas ?
Non. En plus, moi, je me connais, je suis un bavard impénitent. Donc, si on augmente, ça ne me posera aucun problème, mais non. Non, l'idée, on est sur 10 minutes, grosso modo, on se tient à ce créneau-là, on n'ira pas au-delà. C'est volontaire, hein, c'est volontaire. Et puis, ça fait partie de toute façon du genre. Hein. Le genre, c'est toujours, on voit bien, moi, j'ai regardé d'autres chaînes d'histoire, ce sont des formats courts. Et je trouve que c'est très bien comme ça, ça doit fonctionner comme ça. Sinon, on fait des conférences, on fait autre chose. Il y a d'autres formats qui existent ailleurs. Mais pour ce qui nous concerne, on rentre vraiment dans le moule, dans le cadre de ces chaînes histoire.
Moi, j'avais peut-être une petite question. Où avez-vous tourné ces vidéos ? Parce qu'on se demande à qui appartient cette bibliothèque.
Eh bien, c'est la mienne. C'est quelques-uns de mes 3500 ouvrages.
Tout de même.
C'est tourné dans mon salon. Effectivement, elles seront toutes pratiquement tournées là, a priori. On fera peut-être quelques extras. Mais on a trouvé que le cadre s'y prêtait bien. C'est une vieille maison au 19e siècle, à Tifauge, où je réside. Et on a trouvé que c'était formidable par rapport à ce que l'on faisait. On est dans l'histoire. Il y a un cadre quasi historique. C'est une maison du milieu du 19e siècle. Et donc, voilà. Pour tout vous dire, c'est chez moi.
Les BD d'Astérix aussi, vous le confirmez alors ?
Oui, absolument. Elles ne sont pas rangées dans la même pièce, mais on les descend. On essayait, vous l'avez compris, effectivement, pour ceux qui verront cette vidéo, on met des petits livres, des petites choses qui sont en rapport, je vais dire des goodies culturels, qui sont en rapport avec le sujet que nous traitons.
Et même un glaive.
Et même un glaive, oui, on essaie de mettre un peu de
fantaisie. J'ai pas vu le glaive. Le glaive ?
Je t'ai dit qu'il y a un glaive, on le voit bien.
Absolument, il y a un glaive qui intervient dans l'affaire et on essaie d'ajouter des petites choses comme ça de temps en temps.
J'ai pas vu le glaive.
Il faudra la revoir.
Je re-regarderai du coup Historytelling.
C'est important à un moment donné.
Vous connaissez les chaînes YouTube d'histoire, du coup, un peu connues en France ?
Alors, j'en ai vu, je ne prétends pas les avoir vues toutes, j'en ai vu un certain nombre, on va dire une petite dizaine, très différentes. C'est formidable, hein, y a une vraie richesse. Moi, à la limite, ce que je fais est assez classique quelque part. Hein. Je raconte une histoire, je le fais avec mes tripes, quoi, ma façon de faire, c'est un peu comme ça que je fais court. Ça me correspond tout à fait. Mais j'ai vu des choses vraiment très très sympathiques, vraiment très instructives, parfois sur des choses très anecdotique, mais c'est vraiment bien fait, c'est vraiment divertissant, et puis on apprend toujours quelque chose, même derrière les faits divers. Et moi je suis impressionné par ce que j'ai vu sur le net, sur le sujet.
D'accord, merci pour vos réponses, on va continuer juste après une petite pause musicale.
Oui, tout à fait, et on va envoyer Sodad, certainement il a voulu dire.
Peut-être.
On sait pas, on va en savoir plus. On est de retour sur Prune 92 FM, l'émission s'appelle Curiosité. On est toujours avec Thierry, maître de conférence à l'université de Nantes et nouvellement sur YouTube avec sa chaîne YouTube Storytelling. Donc voilà, c'est la deuxième partie de cette interview. Je t'en prie, Romain.
Merci Mathéo. Et donc on revient à Thierry. Nous parlions avant la petite pause musicale des chaînes YouTube françaises. Donc, vous connaissiez ou non. Donc, on parlait un peu de Nota Bene. Est-ce que vous avez des avis sur ces chaînes?
Nota Bene, oui, c'est la première, en fait, qu'on m'a conseillée, ce qui montre qu'elle avait une certaine notoriété. Et de fait, moi, j'ai été assez emballé hein, par ce que fait ce jeune homme, qui est beaucoup plus jeune que moi. sa façon posée de présenter les choses, à la fois, et pourtant très dynamique et très intéressante. Donc, ça a été un petit peu un repère pour voir un petit peu voilà, ce qui se faisait. Mais en même temps, j'aurais envie de vous dire, ma façon d'être dans les vidéos que je tourne, là, pour notre chaîne Histoire, sont assez proches de ce que je fais en cours, finalement. La difficulté, elle est surtout dans le format. Parce que là, effectivement, et je m'en suis rendu compte, d'ailleurs, en tournant la première, les petites choses que je n'ai pas faites dans la seconde, c'est qu'évidemment, on est obligé d'avoir plus de rigueur dans la façon, effectivement, de qu'est-ce que je retiens comme élément, etc. Parce que dans un cours, évidemment, on a 2 heures devant soi, et même si on n'a pas terminé, on peut toujours dire aux étudiants, bah, je vous revois la semaine prochaine, je reviendrai là-dessus. Alors que là, non, c'est en 10 minutes, donc tout doit être dans la boîte, donc ça veut dire que, bah, il faut regarder ce qu'on a tourné, etc. Donc là, on l'a fait plus systématiquement pour la deuxième, et je pense qu'on aura quelque chose qui sera encore un petit peu plus fini. Et puis, il y a le côté rythme qui est important. Qui me semble important. Et donc, de ce point de vue-là, on a augmenté le nombre de plans. On n'en avait que 5 dans la première, il y en aura 8 dans la seconde pour que ce rythme, qui est vraiment quelque chose qui fait partie, je dirais, de l'ADN de ce type d'émission, voilà, c'est des gens qui sont devant cela. Il faut que ça passe vite, ça avance vite. On peut pas, il faut pas qu'il y ait de longues tirades où il se passe rien, de blanc, etc. Donc l'idée, c'était de passer quand même dans un autre régime. Et je pense que dans la deuxième qu'on a faite, on a un petit peu progressé en la matière. Grâce, il faut le dire quand même, au conseil d'Amixem, hein, dont on parlait tout à l'heure, qui est un peu l'origine du projet, enfin en tout cas qui m'a encouragé. C'est lui qui m'a dit, mais si absolument Thierry, il faut que tu fasses ça, etc. Et voilà, et il a été très gentil puisqu'il nous a, il a visionné la première pour nous dire ce qu'il en pensait. Et deuxièmement, il se propose même, on ne l'a pas encore fait, de nous faire de la publicité. Ce qui n'est pas rien quand on sait le nombre de viewers que possède, bien sûr, Maxime Chabroux, pour l'appeler de son vrai nom.
Plus de 5 millions, je crois.
C'est 5 millions, oui, tout à fait. Ouais, bon, je ne prétends pas que les 5 millions vont nous rejoindre.
Bah, je pense que
mais bon, je pense que parmi les gens qui avaient vu la vidéo que j'avais tournée avec lui, voilà, ah bah tiens, je l'avais vu, ça c'est intéressant, etc. Bon, voilà, affaire à suivre. Hein. Voilà, nous, on se fait plaisir pour l'instant, c'est le principal. Après, bon, si on peut ramener effectivement quelques personnes supplémentaires sur d'autres horizons, parce que pour l'instant, les gens qui nous rejoignent sont très largement des gens, bien sûr, de la région nantaise. Bon, les étudiants, évidemment, voilà, qui étaient un peu de la partie, que j'avais informé, nous ont quand même rejoints pour un certain nombre d'entre eux. Mais bon, l'idée, c'est quand même d'élargir un petit peu et d'avoir un rayonnement qui dépasse les pays de la Loire. Voilà, grosse ambition.
On vous le souhaite en tout cas. Ça vous a pris combien de temps pour sortir cette première vidéo en tant que telle ?
Alors, il y a deux temps. Le temps de préparation n'a pas été très long parce que, bon, je suis antiquiste, donc César et Cléopâtre, je connaissais un petit peu. Donc là, je dois dire que j'en parle même dans mes cours. Donc, il y en a même d'ailleurs, dès que je l'ai fait, les étudiants me disent « Monsieur, est-ce que la vidéo sera prête pour les révisions ?» Alors, je dis oui, et j'ai tenu parole, puisque pour les révisions qui se préparent, ils auront effectivement cette vidéo à disposition. Donc, ça n'a pas été très long. Ce qui a été le plus long, bien sûr, c'est le tournage. Alors, le tournage, bon, disons que c'est, bon, pour 10 minutes, c'est trois bonnes heures, hein, trois heures, je dirais, voire quatre pour la deuxième vidéo. Hein. C'était carrément 4 heures pour la deuxième vidéo, mais c'est pas tout. Il y a tout le montage. Alors là, je dois dire que moi, je n'interviens pratiquement pas dans le montage. Ça, c'est une chance que j'ai, c'est que donc Pierre-Emmanuel Le Bonhomme, cet ancien étudiant avec qui donc j'ai lancé cette affaire-là, est prof d'histoire-géographie. Donc ça, c'est très confortable. C'est-à-dire de lui-même, il peut travailler de manière tout à fait autonome. Simplement, quand il a terminé, moi, j'interviens pour voir si je repère pas des petites choses, voilà, ou si j'ai pas des choses que je veux rajouter. Mais là, on gagne un temps précieux. C'est-à-dire que quand il a terminé, en fait, c'est quasiment terminé. Et à ce moment-là, il y a plus grand-chose à faire. Mais lui, il m'a dit, mais c'est 20 heures, c'est un travail énorme, une vingtaine d'heures pour faire tout le montage. Mais bon, la qualité est là. Pour ceux qui l'ont vu, tout le monde nous a dit, bah oui, l'image est propre. Et c'est vrai que moi, j'étais assez impressionné par le niveau de l'image. Et Amixem nous a dit tout de suite, bah oui, c'est vraiment bien au niveau de l'image. Voilà. Donc après, si le contenu plaît en plus, ben on aura gagné sur les deux tableaux. Quoi, ma foi, tout va bien.
Et la seconde sort la semaine prochaine, c'est ça ?
Alors la seconde sort la semaine prochaine, voilà, hein, sur la quatrième croisade. Et puis on va essayer pour l'instant, le rythme, on le voit bien, ça va être une vidéo qui sort par mois. Bon, on va peut-être profiter des vacances pour peut-être en faire deux, voilà, peut-être rétrécir les délais. Mais c'est vraiment un gros travail. Et puis on a une activité, il faut le dire, en dehors de ça, hein, c'est pas notre activité principale. Donc on va étoffer petit à petit voilà, notre affaire. Voilà. Mais enfin bon, le but c'est quand même de monter en puissance et puis de proposer un panel de sujets historiques qui voilà, pourront éventuellement intéresser les étudiants, les élèves et puis toute autre personne qui s'intéresse à l'histoire.
On rappelle le nom de la chaîne, History Telling.
Absolument.
Et donc si vous deviez convaincre justement un spectateur de regarder vos vidéos, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Bah, je lui dirais que, en fait, c'est un moyen, dans un temps très limité, je pense, de se mettre au courant sur un point d'histoire que par ailleurs, bah, il faudrait couvrir au travers de lectures plus longues. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut pas, il faut arrêter à ce moment-là. C'est aussi une incitation à aller plus loin si le sujet a plu.
Très bien. Eh bien, merci d'être venu nous parler de votre nouvelle chaîne.
C'est moi qui vous remercie.
On rappelle, c'est Historytelling et je te rends la main, Mathéo.
Yes, eh bien, pause cadeau, tout de suite, voilà, je le trouve.
Un mot, et tout de suite. Lettre qui va commencer par la lettre R.
Écrivain, E-C-R-I-V-A-I-N.
Ça fait 100 à rien pour l'instant, Mathilde. Allez-y.
Votre intérêt est satisfait par curiosité ? Laissez-nous aussi vous gâter avec la pause cadeau sur Prune 92FM et sur le www.prune.net.
Ah, c'est notre petit défaut, c'est qu'on veut, qu'il y ait du rythme, c'est tout.
Ce soir, tenter de gagner deux cassettes incroyables à l'ancienne. Ça change d'être CD, ça change des vinyles, ça change du stream. Et ouais, on a deux exemplaires trop cool de Fada Records, un réel rafraîchissement pour les oreilles et l'esprit. Ce sont des prods jazz, hip-hop, trap. Vous en écoutez un extrait à l'instant. Que des morceaux courts qui ne dépassent pas les 3 minutes, mais délicieux, ultra chill, comme dirait Lara. Vous pouvez tenter de gagner ces deux cassettes, je le rappelle, d'une valeur... Non, je rigole. Pour jouer, appelez le standard dès maintenant au 02 40 12 09 12. 02 40 12 09 12 pour gagner ces deux cassettes. Premier arrivé, premier servi. On rappelle que deux cassettes sont à gagner pour tenter de gagner ces cassettes. Appelez au 02 40 12 09 12. Premier arrivé, premier servi. 02 40 12 09 12. On est de retour sur Curiosité 92 FM et on va vous parler des élections européennes. Et oui, puisque les élections sont dans moins d'un mois et la composition du prochain Parlement européen n'a jamais été aussi incertaine. Paradoxalement, les élections européennes n'auront jamais suscité autant d'intérêt en France. Pourtant, un vent abstentionniste souffle sur toute l'Europe, touchant tout particulièrement la jeunesse. Désenchantés ou engagés, ils sont nombreux à refuser les urnes comme unique moyen d'expression et d'engagement, alors que les partis extrêmes se mettent au jeu démocratique pour réformer, voire provoquer l'explosion européenne. Alors pourquoi ces jeunes européens, qui pour beaucoup adhèrent aux valeurs européennes, s'abstiennent ? Eh bien, nous leur avons posé la question. Nicolas, un jeune en service civique dans le milieu de la culture, Nathalie, une jeune graphiste nantaise, Julien, un jeune doctorant sur les questions européennes, et Patrick, qui est aussi mon chroniqueur, et qui est aussi jeune sujet de la reine d'Angleterre et nouvellement franco-britannique, on le rappelle, hein, les papiers sont posés sur la table tellement il est fier. Ils ont répondu à nos questions et l'épisode 1 qui a été diffusé hier, qui s'appelait Abstentionnisme et pourquoi. L'épisode 2, donc, on vous propose d'écouter aujourd'hui, s'appelle S'engager autrement que par les urnes. C'est parti.
Le 26 mai 2019, les jeunes européens seront appelés aux urnes pour l'élection des députés européens. Cette élection au suffrage universel direct depuis 1979 n'aura jamais été aussi commentée en France que cette année. Pourtant, cette effervescence autour de ces élections européennes arrive à un moment paradoxal, car aussi marqué par une forte abstention des jeunes. Il y a indéniablement un signal de désenchantement, voire de dégoût de ces jeunes pour l'offre politique actuelle ou la manière de faire de la politique. Notre équipe a décidé de donner la parole à quatre jeunes européens aux profils divers dans cette période de campagne européenne pour savoir ce qui explique leur désenchantement et ou leur abstentionnisme. Nicolas, un jeune nantais du monde de la culture, Julien, jeune doctorant travaillant sur des thématiques européennes à Nantes, Nathalie, jeune professionnelle nantaise aussi, et enfin Patrick, jeune sujet de la reine d'Angleterre et nouvellement franco-britannique. Nous saurons enfin s'ils veulent effectivement, secrètement, que l'Europe s'écroule. Et toi, comment tu t'investis, tu t'engages localement ?
Alors comment je m'investis et je m'engage localement, c'est un investissement complexe. Déjà dans on va dire mon travail entre guillemets, moi je suis en doctorat, et moi pour maman la première chose c'est que l'essence même, la dynamique même de recherche, elle est forcément liée à la volonté de créer des outils d'émancipation des populations. Et autrement, moi je suis engagé dans la cause des étrangers à Nantes depuis un bout de temps. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé également à me penser comme acteur politique à part entière. Et donc, moi, l'engagement, il est concrètement, il est sur le terrain. Moi, je crois que l'outil du changement, ce qui fait le moteur de nos histoires, ce n'est pas la succession d'États et des princes qui nous gouvernent, c'est plutôt les mobilisations sociales qui permettent justement d'apporter quelque chose.
Je me suis toujours engagé politiquement. Ouais, durant mes années de fac, j'ai pas mal milité, notamment pour la gauche, l'extrême gauche, mais c'était plus une action concrète. Et pour moi, c'est ça ma part d'investissement dans le système politique actuel, dans la société. Et je trouve que c'est un peu parfois hypocrite qu'on me reproche de m'être abstenu, donc je n'ai pas mon mot à dire. Mais est-ce que le fait d'aller voter une fois tous les 5 ans fait de nous un bon citoyen ? Enfin, c'est la question que je me pose. Mais moi, je pense pas. Je pense que la citoyenneté s'agit au quotidien. Donc voter, c'est un droit, mais l'abstention, c'est aussi un droit.
Alors, comment je m'engage localement, déjà, je participe dans plusieurs. Je suis adhérent de plusieurs associations sur Nantes. dans lequel je suis un participant actif. Au-delà des associations, je suis moins impliqué dans, par exemple, les consultations locales, juste par une question de temps, parce que assez souvent, c'est pendant mes heures de travail.
Alors, est-ce que je m'engage localement ? Oui, parce que j'ai fait partie de plusieurs associations, alors locales, sur l'audiovisuel. Et aussi parce que ça m'arrive de participer à des sortes de forums ou de questions que vont poser la mairie et qui sont ouvertes et qui nous permettent de discuter avec nos élus et puis de voir directement ce que nous on a besoin, ce que pensent. Des fois ils pensent des choses qu'on pense pas, etc. Et l'inverse. Donc c'est vrai de montrer, d'échanger ses points de vue directement, je trouve ça quand même mieux, quoi.
Certaines personnes ayant milité pour l'obtention du droit de vote expriment souvent une déception face à l'abstention des jeunes Européens. Qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes ?
Ouais, je répondrais aux personnes qui ont milité pour le droit de vote. Déjà, je pense que ça a été acquis il y a très longtemps, mais ceux qui l'ont acquis n'ont pas acquis ce droit de vote-là. Ils ont acquis un droit de vote parce qu'ils pensaient prendre part à une société. Et actuellement, le droit de vote est qu'un outil de la démocratie et n'est pas non plus influent dans le système actuel. C'est un peu hypocrite de dire que voter est utile, puisque finalement la classe politique ne répond pas aux exigences de ceux qui ont voté pour eux.
Donc en fait, on a presque plus de poids politique en disant que ces gens ne me représentent pas, donc je n'y vais pas, plutôt que voter blanc, qui est en fait la même chose. On doit tous le droit de vote à quelqu'un, homme ou femme. Moi, je ne vois pas la différence.
Je pense que oui, voter est un outil parmi d'autres, parce que je pense que la plus grosse des actions, c'est d'agir au quotidien.
Qu'est-ce que je répondrais aux personnes qui pensent ou qui revendiquent des combats historiques pour le droit de vote ? Je leur dirais qu'il faut relire l'histoire, que ça ne s'est pas passé comme ça. Le vote est antérieur, la pratique du vote est antérieure à la Révolution française, et le suffrage universel a été donné afin de pouvoir faire porter au pouvoir Napoléon III. Donc je leur dirais qu'il n'y a eu aucun combat pour le vote qui mérite d'être défendu. On n'a jamais pensé, par exemple, que cette idée de vote représentait la solution réelle des populations concrètes. Ce sont simplement des désirs de princes qui souhaitaient se faire légitimer, rendre une décision arbitraire, celle qu'un homme puisse nous diriger, la rendre évidente et naturelle. Donc, moi, je leur dirais qu'il y a une grande méprise et que justement, même si le vote constitue une possibilité pour que des personnes puissent s'exprimer, ce n'est pas par la défense des droits de vote que ça a été acquis, sauf évidemment quand on pense le mouvement femmes. C'est un mythe qu'on nous a construit pour nous faire croire que le vote était notre seule possibilité d'action politique. Donc je dirais que le vote n'est pas notre seule possibilité d'action politique, c'est simplement le rituel par lequel les gouvernants légitiment leur action.
Alors Nathalie, certaines personnes ayant milité pour l'obtention du droit de vote expriment souvent une déception face à l'absentéisme des jeunes Européens. Dans le cas du vote des femmes, c'est d'ailleurs une bataille qui a été particulièrement importante. Est-ce que toi, tu ressens une responsabilité particulière par rapport à cet héritage, la bataille qu'il y a eu pour les femmes et le droit de vote ? Et est-ce qu'en tant que femme, tu vivrais les choses différemment par rapport à cette histoire ?
Alors, le lien entre le droit de vote, les femmes, l'absentéisme, j'aime pas quand on essaye de faire du prosélytisme dans ce sens-là avec moi, ça ne marchera pas. c'est toujours des arguments qu'on essaye de me balancer, alors il y a soit ça, il y a aux dernières élections, on a eu aussi un problème avec l'absentéisme, disant que ça allait profiter aux extrêmes. Enfin, il y a un moment, il faut être honnête. Les gens, s'ils veulent voter, ils votent. S'il y a un parti qui l'emporte, il l'emporte parce que les gens le votent et pas parce que les gens ne votent pas. Donc il y a de ça. Et puis après, c'est mon choix. Et je pense que les gens se sont battus pour un droit qui est aussi le droit de ne pas voter. Et ne pas voter, ça représente aussi quelque chose.
Je répondrai aux gens qui réprochent aux jeunes leur absentéisme dans le cadre des luttes pour le droit de vote. Je dirais d'abord, c'est pas pour rien que l'absentéisme pour l'Europe a été le plus fort ces dernières années, parce que les gens se sentaient pas du tout concernés. Alors je pense justement cette année, on pourrait voir une plus forte participation, parce que je pense que les gens se sentent justement plus impliqués cette fois. Tout simplement parce qu'il y a un combat politique qui a lieu cette année. Il y a l'extrême face à, disons, le centre plus libéral. Donc, il y a un combat politique qui aura lieu. Du coup, les gens se sentent impliqués. Il y avait un député allemand, ou alors c'était un journaliste allemand, qui a dit dernièrement, que l'absentéisme chez nous est juste le reflet que le gouvernement tourne bien. Parce que les gens ne se sentent pas obligés, parce que ça leur va à peu près. Après, est-ce qu'on a le droit de se plaindre après quand on vote pas ? Je pense que ne pas voter, c'est quelque part accepter le statu quo. Je suis pour, je suis contre les personnes. S'ils ne votent pas, quelque part, c'est qu'ils ne sont pas assez contre ou pas assez pour un autre.
Ma transition est toute trouvée, Patrick.
Bien sûr, hein, tout à fait.
Tu sais de quoi je vais te parler ? Je vais te parler de cette chronique tant attendue.
Toujours.
L'euro,
toutes
chronique.
Les semaines.
Nous cherchons un mot de 8 lettres qui va commencer.
Alors, on la refait parce que c'est pas ce jingle-là, c'est un autre. On va parler, bien sûr, de ton euro chronique.
Essaie encore.
Das ist fantastisch.
Magnifico.
Wonderful.
Marvelous.
Wunderbar.
Stolz.
Das ist
fantastisch.
Magnifico.
Oh! L'euro chronique.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Patrick.
J'ai déjà été présent depuis quelques minutes sur l'antenne, mais voilà, c'est ma chronique.
Voilà.
Enfin. Alors, j'avais promis cette semaine des actus sur le Brexit. Il n'y en a pas encore eu. Pas beaucoup en tout cas. Tout le monde prépare l'opposition pour les élections européennes en Angleterre et comme c'est un peu précipité, c'est un peu brouillon pour le moment. Donc j'attends pour voir comment ça va se concrétiser. Je suppose que nous serons plus près de la date des élections européennes. Mais il y avait des élections aussi en Espagne dernièrement, dimanche. Alors tout le monde parle du parti d'extrême droite Vox qui est passé de 0 à 24 sièges pendant les élections, surtout marquant dans le pays de Franco. Histoire plutôt récente de l'extrême droite au pouvoir, donc même la dictature. Donc on pensait que c'était pas possible, mais il y aura toujours des nostalgiques, je suppose.
Tu penses qu'il y a corrélation avec l'arrivée de Manuel Valls ou pas du tout?
Je sais que tu essaies de placer Manuel Valls dans toutes mes chroniques
en Espagne.
Tout le temps. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que pour le moment ce soit le cas. On verra. En tout cas, le veston en cuir, ça a dû marquer quelques esprits. C'est le Premier ministre Pablo Sanchez qui en ressort renforcé avec le plus de votes et de sièges. Mais il va devoir former une coalition quand même pour gouverner. Probablement avec la gauche radicale ainsi que des partis régionalistes. Ce qui dit coalition avec des partis régionalistes dit...
Bombe artisanale ?
Non, pas vraiment.
Non, merde.
Dis plutôt débat sur est-ce qu'on peut faire un référendum pour l'indépendance. Donc, je pense qu'on va réentendre parler de la Catalogne sous peu. Donc, est-ce que vous courez beaucoup dans le studio ?
Pas dans le studio, non.
Pas sur les lumières ?
Non.
Pas forcément dans ce studio, parce que ce serait un peu serré, je pense.
Oui, ce serait voilà. Dans le, l'autre.
Dans le
peut-être.
Grand studio
oui,
qui arrive.
Tout à fait.
On pourrait faire, ouais. Bon, bref. À Trieste, en Italie, s'organise bientôt un semi-marathon pour les semi-gens. cette semaine, l'organisateur avait créé un scandale en déclarant que seuls des coureurs européens pourraient, seraient admises, excluant ainsi tous les coureurs africains.
Bah oui, hein.
Qu'il faut dire, gagnent souvent dans ce genre de course. aujourd'hui, suite à au scandale, on annonce que en fait, les Africains pourront au final participer. Donc, bon, grosse déception pour Mathieu, qui croyait avoir une chance jusqu'à
et
là.
Et qui est kényan.
Voilà.
Kenyan. Aussi.
Oui, tout à fait. Oui, ça se voit.
Ouais.
Ouais. Plus d'entraînement, Mathieu.
J'essaierai.
C'est le seul moyen.
Promis. Je ferai des pompes, Patrick.
Je suis pas sûr que
pour
ça
courir.
Aide la course.
Ça aide dans l'ergonomie, mec.
Ouais, tout à fait. Aux Pays-Bas, les agriculteurs ont érigé des palissades autour des champs de tulipes pour retenir des touristes, des hordes de touristes qui entrent dans les champs pour chercher le photo Instagram parfait.
et en ce faisant écrase bon nombre de fleurs. Donc voilà, c'est un peu bête.
Ouais. Bah, tu peux pas regarder et en l'air et tes pieds quoi.
Voilà, c'est ça le compliqué. Ouais. Selfie stick, regarde pas forcément son pied. Non. Donc voilà mon message aux touristes, si vous visitez le Pays-Bas, n'allez pas voir les champs de fleurs de tulipes, mais plutôt les champs de cannabis. C'est plus, beaucoup plus résistant, quoique moins esthétique pour les photos Instagram. Et pour finir, avez-vous l'impression d'être surveillé constamment? Que
oui.
Quelqu'un regarde chacun de vos gestes.
Tout
je vois que Mathieu hoche la tête.
Tout à fait.
Notamment à la plage sur les côtes norvégiennes.
Or, comment tu sais que c'était moi? Punaise.
Alors, soit c'est Facebook, toujours une possibilité, soit c'est une baleine blanche entraînée par les Russes.
Ah.
Ouais. Les pêcheurs norvégiens ont filmé cette semaine une de ces belugas qui suivaient leur bateau portant un harnais avec l'indication « propriété de Saint-Pétersbourg ».
Mais non.
Si.
Incroyable.
Alors, j'ai peut-être regardé trop James Bond, mais ça me paraît un peu gros.
Un beluga espion?
Ouais, un beluga espion. Alors, il y a quand même un antécédent. Pendant la guerre froide, les soviétiques avaient entraîné des dauphins pour chercher des sous-marins, donc qui sait?
Ouais, il y a des aigles qui arrêtent des drones.
Ouais, voilà.
Il y a des abeilles robots. Enfin, on s'écarte un petit peu du sujet, mais...
Ouais, il y a des pigeons voyageurs. Depuis longtemps.
Ouais.
Ouais, ça, c'est pas une nouveauté, ouais.
Non, voilà.
C'est moi, ouais.
Les chevaux de trait.
Ouais, c'est vrai, ça,
voilà.
Patrick.
Voilà.
Des chiens d'aveugles.
Des chiens d'aveugles.
Oui.
Et la dernière, Robin, t'en as pas fait?
Non, j'en ai pas, moi.
Ah, il a perdu.
Voilà. Non, mais est-ce que, voilà, les Russes, voilà.
Les Russes et leur beluga.
Voilà.
Et exactement. Le beluga, c'est...
Non, c'est le narval.
C'est le narval, d'accord.
Ouais.
Le beluga, finalement, qui est une petite baleine.
Petite baleine blanche.
Ouais. Ok.
Toute mimi.
Ou un gros dauphin.
Si tu veux.
Une marque de
caviar. Oui. On n'est pas dans, on traîne pas dans les mêmes soirées, Thierry.
Probablement pas. C'est la chaîne YouTube, ça.
Ouais, ça paye. Ça,
fou,
ça paye.
Ça rend fou.
Un max.
Fou,
c'est les conventions. Ça.
La YouTube monnaie,
ouais,
quoi.
Ouais.
Trêve de plaisanterie. Hein, parce que, bon, j'ai un adieu à faire. Voilà, c'était ma dernière émission. C'était mon dernier Curiosité, vie étudiante. Bah, je vous remercie de m'avoir écouté si vous l'avez fait. Si c'était la première fois, bah, tant pis, j'ai envie de dire. Vous aurez l'occasion de me retrouver en mai, oui, puisque en mai, Prune fête ses 20 ans. Et oui, on va mettre une petite musique là pour les 20 ans. Et oui, Prune fête ses 20 ans et donc vous êtes bien sûr conviés à tous les événements. Mais sinon, il y aura donc 20 émissions spéciales dans lesquelles dégustation de vin, invités spéciales, tout ça. Je ferai partie de ces émissions-là. Voilà, vous sentez ma voix un petit peu tremblante. Voilà pour ma dernière émission. En tout cas, merci de m'avoir suivi si vous l'avez fait, comme je vous l'ai dit. Et puis.
Et merci à toi, Mathieu.
Ah, c'est beau, Patrick. Et puis, merci à nos invités. Merci à Thierry d'avoir fait cette émission avec nous. Merci à Robin, notre stagiaire de l'extrême, qui tout à l'heure est allé se frotter au CRS, tel un Avenger. C'était beau. C'était puissant. Voilà. C'est la fin de cette émission. Merci Roura, qui n'est pas là, mais qui est à Valence. Et c'était moi à la réalisation, du coup. Merci à Patrick. Merci à Robin, comme je l'ai dit. Merci à Thierry pour cette émission. Merci à Sarah, que nous avons eu en début d'émission au téléphone. J'espère que vous avez apprécié cette émission. On vous donne rendez-vous toujours à 18h. Non, demain, c'est férié.
Non.
Pas d'émission demain, jeudi. Donc, on vous donne rendez-vous jeudi, toujours à 18h. Moi, je vous dis, du coup... Au mois de mai, voilà, je vous laisse avec Pauline et Mathilde dans Focus, l'émission qui met en lumière des personnalités musicales qui ne sont pas habituellement mises sur le devant de la scène.
Toutes les émissions de Curiosité sont à retrouver sur le www.prune.net dans la rubrique Émissions.